France Musique.
Les grands entretiens. Judith Chen. France Musique.
Je m'appelle Jean-Guyenne Queyras. Je suis né le 11 mars 1967 à Montréal. Je suis violoncelliste.
Jean-Guyenne Queyras, je crois que c'est à 9 ans que vous découvrez le violoncelle. À l'époque, dans la famille, vous nous l'aviez dit, il y a de la musique qu'on écoute, mais est-ce qu'il y a chez votre père, chez votre mère, chez vos aînés, Pierre-Olivier, vous en parliez, qui est violoniste, il y avait déjà de la musique en train de se faire aussi?
Alors d'une part, ma mère était une pianiste amateur, mais de très haut niveau. Elle jouait vraiment très très bien, et régulièrement, et de manière passionnée, donc ça... C'était très présent. Mon frère Pierre-Olivier, qui a 2 ans et demi de plus que moi et qui avait commencé le violon très très jeune. Il avait commencé le violon à 3-4 ans. Donc quelque part, je l'ai toujours vu jouer du violon. Alors plus spécifiquement avec le violoncelle, ma mère justement faisait un peu de musique de chambre. Et notamment, elle jouait régulièrement en duo. Alors là, on retourne au Canada avec un violoncelliste avec lequel elle jouait les sonates baroques, je me souviens de Marcello, les sonates de Vivaldi. Ce répertoire violoncelle-piano, ce mariage entre deux instruments, ben voilà, je l'ai déjà vécu à ce moment-là, puis je voyais l'instrument. Donc quand il y a eu ce coup de foudre, finalement relativement tardif, c'est-à-dire quand j'avais 9 ans, qui est venu parce que je suis allé à une audition de jeunes musiciens, où jouait justement mon frère Pierre-Olivier, mais il y avait aussi un violoncelliste que vous connaissez certainement, qui s'appelle Dominique de Villancourt, et voilà, qui a 4 ans de plus que moi, et qui donc, à l'époque, en avait 13. Dans cette audition, il a joué le concerto de Saint-Saëns. Et ça a été vraiment un coup de foudre. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon côté obsessionnel quand on parlait de Art Blakey. Et là, voilà, toc, j'avais découvert ma nouvelle obsession, mon nouveau point d'ancrage auquel je brûlais de m'accrocher. Mes parents décrivent toujours ce moment, entre ce moment où j'ai écouté ce concert et jusqu'à ce que j'ai mon premier violoncelle et mon premier cours de violoncelle, j'étais comme un lion en cage. Il me décrit, je tournais en rond et je disais, il me faut un violoncelle. Je pouvais plus m'exprimer autrement, en fait. C'était comme si tout d'un coup, ben voilà, c'est par là que ça va passer. Sans doute qu'il fallait un petit peu ce côté démesurément obsessionnel pour compenser le fait que finalement je commençais à un âge relativement tardif. 9 ans, on en connaît d'autres. Piatigorsky a commencé apparemment quand il était adolescent, hein, quand il avait 13-14 ans. Et 4 ans plus tard, il était violoncelle solo au Philharmonique de Berlin. Et donc, je me souviens effectivement de l'arrivée de l'instrument, déjà, qui est arrivé quelques temps avant que je puisse prendre mon premier cours. Je me souviens exactement de chaque détail, c'est intéressant, hein, je pense que c'est un peu comme la première rencontre avec la personne aimée, n'est-ce pas? Enfin, sans pousser la métaphore trop loin, j'ai envie de parler du moment où j'ai ouvert la housse, et cette housse dont je me souviens en tissu gris comme ça, un peu genre toile de jute, mais pas tout à fait comme ça, donc très très simple, et puis l'instrument lui-même, qui était d'ailleurs pas tout à fait comme je l'attendais.
La couleur?
La hauteur du chevalet, la forme, enfin voilà, ça c'est vraiment des choses, des petits détails, mais cette rencontre s'est faite comme ça. Ouais.
qu'est-ce qui vous a tellement touché dans ce violoncelle pour que vous en deveniez obsessionnel sans l'avoir encore touché?
Alors, je crois que c'est... Alors, auditif certainement, c'est-à-dire je crois que c'est fréquences graves. Hein, vous jouez une corde de Do de violoncelle, vous jouez une corde de Sol de violoncelle, des cordes graves, vous avez ces fréquences, elles vous font du bien. C'est quand même très différent des fréquences, effectivement, du violon. C'est pour ça qu'on dit très souvent, bon, un violoncelliste débutant, c'est quand même moins insupportable qu'un violoniste débutant. Et je crois que aussi cet aspect-là, c'est-à-dire d'avoir un instrument qui est grosso modo presque de la taille d'une personne, on peut dire, et que vous prenez dans vos bras comme... Il s'agit vraiment d'une embrassade et d'une connivence d'égal à égal. Je crois que c'est plus ça que le visuel, finalement.
Alors ça va commencer à Manosque, le premier cours, la fameuse première leçon.
Oui, alors la première leçon c'est avec une femme extraordinaire, donc ça on le dira jamais assez. Les professeurs qui s'occupent des débutants sont des personnes qui ont, je crois, plus de responsabilités sur leurs épaules que tous les professeurs qui vont donner des conseils aux violoncellistes déjà avancés, etc. C'est quelque chose d'extrêmement fragile et d'extrêmement précieux qui va déterminer énormément de choses. Quel est vraiment votre rapport à l'instrument et qu'est-ce que vous et cet instrument, qu'est-ce que vous construisez autour, qu'est-ce que ça vous permet de construire? Et là, il y a plusieurs éléments déterminants chez cette femme extraordinaire qui s'appelle Claire Rabier, qui maintenant a pris sa retraite, mais qui a été jusqu'à récemment extrêmement active. Eh bien, d'une part, elle savait trouver les mots justes pour me donner envie, pour me donner du plaisir. Et c'est ça qui est tellement important, pour me donner du plaisir à prendre l'archet dans la main, pour trouver un lien qui fasse du bien avec l'instrument, hein, comment poser la main de manière naturelle, jamais forcée, toujours se comporter de manière aimable, j'ai envie de dire, avec l'instrument. Il y avait ça d'une part, et puis un aspect social important. Quand j'allais à mon cours à Manosque, j'y passais toute une après-midi, et mon cours lui-même durait 3 quarts d'heure, et le reste du temps, Claire organisait des groupes, des élèves comme ça, pour lire des pièces pour ensemble de violoncelles. Donc on se mettait à 3 violoncelles, à 4 violoncelles, à 5 violoncelles, et on lisait des morceaux, et on travaillait ensemble, et ce quel que soit le niveau. Et ça, c'est un autre aspect important, de cette idée d'un tissu social déjà au sein d'une classe, est quelque chose qui était important et qui m'a marqué pour toujours, et dont je me rappelle aussi maintenant dans mon activité de pédagogie, puisque j'ai une classe à Freiburg, en Allemagne. Et ce travail de groupe, de cohésion d'une classe, c'est quelque chose auquel je veux donner de plus en plus d'importance.
Alors, il y a eu Claire Rabier à Manosque avec cette musique qui se partage. Et puis ensuite, c'est le départ pour Lyon. Vous avez quel âge quand vous partez au Conservatoire de Lyon?
J'avais 13 ans. C'était 4 ans après avoir commencé. Et si j'avais dû aller à Paris, ça aurait été vraiment très dur quand même d'abandonner cette Provence où j'étais arrivé finalement relativement tard en plus. Et puis c'est un âge délicat quand même, quand on a 13 ans, c'est le début de l'adolescence, etc. Donc là, j'ai eu la chance aussi d'atterrir dans une famille monoparentale, en fait, donc avec une maman assez extraordinaire, Annie, et ses trois enfants. Cette expérience a été formidable, toutes ces années lyonnaises, je dois dire. Donc j'avais rencontré ma professeure, qui allait être ma professeure à Lyon, Reine Flachot. Je l'avais rencontrée 2 ans plus tôt. J'avais 11 ans, j'avais fait un stage d'été avec elle. Et ça avait été un peu un coup de foudre réciproque. Elle était un peu comme une grand-mère pour moi, parce que bon, elle était encore relativement jeune. Je pense qu'elle devait avoir à peine 60 ans à l'époque, mais moi j'en avais 11, donc voilà. Et j'étais un petit peu le petit lutin qui se promenait partout. Donc elle qui donnait toujours du mon petit lapin à tous ses élèves. Et ben moi j'avais eu droit à un surnom spécial. Elle m'appelait la crevette parce que je me baladais partout et parce que j'étais toujours un petit peu. J'étais un moment à gauche, on tournait la tête et hop j'étais ailleurs. Donc puis surtout j'étais assez impatient, assez curieux. Donc la crevette est rentrée au conservatoire de Lyon dans la classe de Reine Flachot, où j'ai passé 4 ans avec elle. Et ça, franchement, avec le recul, je suis très reconnaissant à mes parents d'avoir osé tout ça. Hein. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, mais que c'est le fait que aussi, quand j'avais 10 ans, c'est-à-dire finalement 1 an et demi à peine après avoir commencé à faire du violoncelle, mais pour moi c'était clair, c'était ma vie, c'était ma passion, c'était avec ça que j'allais m'exprimer. Eh bien, on a pris la décision avec mes parents je suis sorti de l'école pour avoir plus de temps pour la musique. Et j'ai fait les cours par correspondance. Ce qui n'est pas une décision qu'on peut prendre à la légère. C'est quand même un choix assez radical de sortir de tout un environnement social, l'école, etc. Je me souviens de moments de solitude assez forts. Votre journée d'école, elle est dans la maison, avec ces cahiers qu'on vous a envoyés par la poste, avec ces, voilà, et avec votre violoncelle. Et avec votre... Donc c'était, avec le recul, je sais que, si je devais réfléchir à ce genre de choses pour mes enfants, j'y réfléchirais pas à 2 fois, mais à 10 fois. Enfin, c'est quelque chose, c'est un choix assez radical qui n'a pas eu que des côtés roses, mais je pense qu'il fallait le faire. Mais une fois que je suis rentré dans la structure au Conservatoire supérieur de Lyon, je suis devenu étudiant. J'ai suivi le même programme que les étudiants qui avaient entre 18 et 22 ans et 23 ans. J'avais un programme à temps plein avec mes 13 ans. J'avais eu droit à une bourse parce que mes parents avaient des revenus très modestes. Donc c'est vrai que j'avais un petit peu ce statut, un petit peu de petite mascotte, voilà quoi. Mais l'ambiance était très sympa, puis j'ai rencontré vraiment des professeurs extraordinaires. Je me souviens de Loïc Mallier, par exemple, c'était mon professeur d'harmonie, et avec qui il y a vraiment eu le courant est passé, et je passais des demi-journées, parfois des journées, dans sa classe, à recopier des chorales de Bach, à faire tout ce travail sur l'harmonie qui a été déterminant et qui me servira ensuite tout au long de ma vie de musicien, évidemment.
Et après, Lyon, Jean-Guyenne Keras, vous partez pour l'Allemagne, trouver là un professeur homme qui s'appelle Christoph Henkel.
Oui, alors ça s'est fait comme ça. C'est que, là, je dois mentionner une autre personne importante que j'ai rencontrée à Lyon, au conservatoire, qui est Alain Meunier. Alain Meunier était professeur de musique de chambre au conservatoire de Lyon. Alain avait, et il a toujours, ce côté rayonnant dans sa personnalité, c'est-à-dire il a une force positive exceptionnelle. C'est quelqu'un qui rayonne, je ne peux pas le dire autrement. Et je le considère vraiment comme un de mes mentors, quelque part. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui m'a toujours conseillé. Et ça a été le cas, justement, pour prendre la décision de partir en Allemagne. Ce qui se passait, c'est que j'étais dans ma dernière année du Conservatoire supérieur de Lyon. Et puis bon, j'étais encore dans l'adolescence, quoi. J'avais 16 ans, j'allais avoir 17 ans à la fin de cette dernière année. Et comme tous les étudiants qui se posent pas suffisamment de questions, je me disais, voilà, qu'est-ce qu'on fait après avoir passé son prix? On fait un troisième cycle, ce qui aujourd'hui s'appelle un master. Le troisième cycle n'existant pas à Lyon, je vais aller le faire à Paris. Donc je vais aller, comme tout le monde, à Paris. Et c'est là que Alain Meunier est intervenu. Et il m'a dit, comme ça, il m'a dit, non, faut pas que tu ailles à Paris. À Paris, ils font la même chose depuis 20 ans. Et puis, il faut que tu ailles voir ailleurs, il faut que tu ailles prendre l'air, il faut que tu ailles à l'étranger, voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et ça a été vraiment un conseil extrêmement précieux, extrêmement important, parce que ce séjour à Freiburg, donc, en Allemagne, a été très important. Ça a été la rencontre avec une autre société, et il faut le dire, une société, la société allemande, qui a quand même un rapport à la musique qui est plus central que celui de la société française. Je crois qu'on dit quand même, et bien sûr, il ne faut pas s'arrêter aux clichés, et heureusement, nous avons un nombre très important de passionnés de musique en France, et Dieu merci, et puis on a France Musique, mais quand même, au départ, on dit souvent que le cœur de la culture française, c'est la littérature, et le cœur de la culture allemande, c'est quand même la musique. Ce rapport à la musique dans le tissu social, c'était quelque chose de très important, et c'est là que j'ai commencé à rencontrer tous les collègue musicien allemand avec qui par la suite j'allais beaucoup travailler, Tabert Zimmermann à l'époque et Daniel Sepek pas beaucoup plus longtemps après, etc. Alors Jean-Guyenne Keras, dernière étape avant d'une certaine façon, la vie professionnelle dont on parlera après, les États-Unis. Il y a donc l'enseignement en France, Manosque, Lyon, ensuite on part à Freiburg et après vous partez, Jean-Guyenne Keras, à New York. Oui, alors New York, ça c'était plus, au niveau des doigts sur l'instrument, ça marchait, j'avais déjà commencé à gagner des prix dans des concours, j'avais gagné un troisième prix à Munich, j'avais gagné un prix du meilleur jeune espoir au concours Ostropovitch. C'était ce moment fort quand j'avais 18 ans où Ostropovitch m'a remis un archet comme ça sur scène au Théâtre des Champs-Élysées ici à Paris et où on avait joué avec lui, enfin tout ça. Donc voilà, mais je sentais qu'il y avait encore vraiment beaucoup de choses à approfondir. Et pour tout dire, je suis parti un petit peu à New York, la fleur au fusil, de manière un peu naïve. Je suis un petit peu allé là-bas, surtout finalement, avec l'idée de me dire, il faut que je vois ce qui se passe en Amérique. Voilà, donc l'Amérique c'est quoi? L'Amérique c'est New York. La musique à New York c'est la Juilliard School. Donc je m'inscris à la Juilliard et voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme prof? C'était du genre, c'est pas les pages jaunes, mais pratiquement, j'ai regardé ce qu'il y avait. J'ai demandé conseil à deux, trois amis. Et je suis allé chez un certain Harvey Shapiro, il devait avoir 75 ans ou quelque chose comme ça, mais il enseignait, il était une verve incroyable. Il aurait pu sortir d'un film sur la mafia new-yorkaise, hein. c'était vraiment un personnage. Mais il avait joué avec William Primrose, il était violoncelle solo à l'orchestre de Toscanini, à New York pendant pas mal d'années. Donc voilà, il avait quand même fait plein de choses à raconter. Il se trouve qu'en fait, au niveau enseignement, il ne m'a pas fait du bien. C'était mon premier échec de ce point de vue-là. Ce n'était pas seulement lui, c'était aussi le choc de la culture américaine. J'avais grandi dans cette Provence idyllique où chaque coucher de soleil est un poème. J'étais dans une famille à Lyon, j'étais chez un couple de petits vieux à Freiburg où la nature est présente partout. À Freiburg, vous faites trois pas, vous êtes dans la forêt noire, tout est beau. C'est une ville écolo, qu'il a toujours été, enfin voilà. Et là, boum, Manhattan. Je logeais au YMCA dans une espèce de petite cage où il fallait que j'enroule mon matelas le matin pour pouvoir poser ma chaise et faire du violoncelle. Et j'avais pas la possibilité de me cuisiner quoi que ce soit. Enfin, c'était une situation très extrême. C'est une culture où tout est rapport de force, voilà. Et moi, j'arrivais de manière angélique comme ça, totalement pas préparé à ça. Donc les premiers mois ont été terribles. Et ça a été un petit peu vraiment le moment de crise de ma vie de jeunesse, d'étudiant, etc., etc. Donc, au bout d'un an chez Harvey et à New York, j'étais vraiment pas en bon état. Et en fait, avant de partir à New York, j'avais rencontré une étudiante altiste de la Hochschule à Freiburg. J'étais encore à Freiburg, dans les couloirs, comme ça, dire qu'est-ce que tu fais? Ben, je pars à New York, etc. Ah bon, tu vas où? Tu vas chez qui? Je lui dis, je vais chez Harvey Shapiro à Juilliard School. Ah oui. Et alors, c'est intéressant comme certaines personnes ont un côté un peu visionnaire comme ça. Et cette Anya, elle m'avait dit dans cette discussion, avant que je parte à New York, elle m'avait dit, Jean-Guyen, écoute, toi ce qu'il te faut, c'est Tim Eddy, qui est aussi à New York, mais dans une autre école, plus petite, plus modeste, dont personne ne parle. Mais ça, c'est, je pense, la personne qu'il te faut. Et donc, quand je me suis retrouvé un petit peu en crise à New York, je me suis souvenu de ça. Et je suis allé jouer pour Tim Eddy, je suis allé rencontrer. Ça a été une rencontre absolument déterminante et vraiment ça a été la rencontre avec le dernier pédagogue qui m'a vraiment donné, alors par le biais de la parole, de l'intellect, etc., qui m'a donné un tout autre rapport à la construction musicale, et notamment la technique d'Archer. Tim est quelqu'un qui a travaillé avec Bernhard Greenhouse, le légendaire violoncelliste du Beaux-Arts Trio, de la grande époque, et même un peu avec Pablo Casals. Et il a hérité de surtout cette multidimensionnalité de la technique d'Archer. Comment avec l'Archer, on a le devoir de faire parler notre instrument comme justement on parle quand on chante d'une cantate ou quand on chante. Et il y a toujours dans la musique, en fait, quelque part, un rapport à la parole, un rapport à ce qu'on est en train de raconter. Et pour ça, vous pouvez pas simplement tirer et pousser l'Archer. Il faut qu'il y ait toute une dimension de profondeur de son, ce qu'il appelle la verticalité, pour ceux qui connaissent pas notre instrument. Donc, grosso modo, au départ, on voit ça, on se dit, bah non, c'est pas, la main de l'archet, elle travaille pas de manière verticale, n'est-ce pas? On tire l'archet dans un sens, mais une fois qu'on est arrivé au bout, on le repousse dans l'autre sens. Et c'est ça qui fait vibrer la corde. Et justement, il y a, en fait, derrière tout ça, au contraire, une véritable dimension de verticalité, qu'on pourrait appeler la profondeur, l'espace. Quelque part, c'est vraiment comme passer de quelque chose qui est sur une feuille de papier à quelque chose en 3D. Donc cette rencontre avec Tim, ça a été vraiment ce qui m'a permis, pendant mes deux dernières années à New York, donc puisque j'y suis resté 3 ans, de vraiment me reconstruire à partir de là. Et quelque part, je pense que on dit souvent, hein, les crises sont des opportunités. Et là, cette crise que j'ai vraiment vécue dans ma première année new-yorkaise, peut-être que c'était bien que je l'ai vécue. C'est bien que j'ai eu d'abord cette chute pour ensuite me reconstruire d'une manière différente.
Thank you.
Un extrait de Milan de Wynton Marsalis avec Tim Eddy au violoncelle. Grand entretien avec Jean-Guyenne Carras, chapitre 2. C'est terminé, la suite demain à 13h. Merci à Céline Tranouvel et Mathieu Benoît pour la préparation, Gilles Blanchard à la réalisation, Yves Lehorse à la technique et Éric Boisset au mixage. Toutes les informations podcast et réécoute, c'est sur francemusique.fr. À demain.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.